Trinville PM. La voie est libre.
Nous avons et nous allons continuer d'être là pour défendre les intérêts de tout Canadien qui se voit soumis à la peine de mort. C'est très inquiétant.
Voici Luc Lavoie.
Oui, Luc Lavoie, en Facebook Live. Comment est-ce qu'il va?
Ça va pas pire, ça va pas pire. Malgré un rhume qui traîne.
Oui, oui.
Mais là, je lève mon verre.
Oui, à quoi?
Au vin québécois, c'est ce que c'est.
Au vin québécois, très bien. Alors,
je m'en sers d'habitude pour laver mes meubles, tu sais, c'est quand il faut frotter et tout, mais là, je vais y goûter, là, tu sais. Attends une seconde, là.
Alors, c'est le vin Phoenix, là, qu'il est en train de boire, le vignoble de la rivière du Chêne.
Mais oh, écoute, Château Margaux, presque.
Arrête donc de niaiser.
Non, c'est pas pire.
C'est pas pire, hein?
C'est pas pire, oui.
Bon, tu m'as déjà donné une bouteille de rouge de Gagliano,
ouais,
toi.
Oui, 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 c'est ça, mais elle était accompagnée par une vraie bouteille de rouge à côté. Gagliano, j'imagine que tu t'en es servi de la façon que je dis, tu lavais tes meubles avec ça.
Non. Non, je l'ai bu, mais je l'ai bu avant l'autre, par exemple.
Ah, OK.
Oui, oui, c'est ça. Alors, donc, ton bon coup et ton mauvais coup, on va commencer par ton bon ou ton mauvais, la Chine, c'est bon ou mauvais, ça?
Ouais, c'est très, très mauvais. C'est très, très mauvais.
Qu'est-ce qui se passe? Résume-nous ça, là.
En gros, les gens se souviennent que le 1er décembre dernier, la numéro 2 du géant technologique chinois Huawei a été arrêtée. C'est la fille, en plus, du fondateur, à Vancouver, sur la base d'un mandat d'extradition émis par les États-Unis. Et en vertu des traités, le Canada a entendu devant un juge et a donc emprisonné la dame en question. Et la Chine a, excuse l'expression, on va parler comme Rimouski, pogné les nerfs.
Mm. Et, péter sa coche.
Oui, péter sa coche. Alors, ils ont arrêté, un par derrière l'autre, deux Canadiens dont les... Et là, ils ont porté des accusations qui apparaissent essentiellement frivoles.
Ouais, ouais.
Et là, ben, il y avait ce monsieur qui était là-bas, un Canadien qui s'appelle Robert Lloyd Schellenberg. Il s'est vu infliger en 2018, dans un premier jugement, une peine de 15 ans de prison pour trafic de drogue. Et il a appelé de la décision. Et ça a été comme ultra rapide. Il a rentré son appel quelque part à l'automne. Et la décision a été rendue aujourd'hui. Ils ont dit non seulement ce à quoi tu as été condamné, c'est-à-dire un peu de prison puis une amende, non seulement c'est pas assez, mais là, c'est la peine de mort.
Incroyable.
C'est incroyable parce que là, ce que tu fais, c'est que tu mélanges carrément le judiciaire et le politique.
C'est
clair que ça fait partie d'un jeu que mène la Chine pour faire libérer cette dame-là.
Alors, quand on dit que la séparation des pouvoirs, c'est un principe fondamental en démocratie...
En voilà un bel exemple. Ben, mais voilà. C'est surtout que c'est une illustration d'une nouvelle attitude de la Chine qui, depuis que Xi Jinping, leur grand patron... Là,
a décidé de se déclarer essentiellement dirigeant à vie. Là.
Dictateur à vie. Là, ils ont commencé à, on dit en anglais, « flex their muscle ». Ils ont commencé à dire au monde...
Ils bombent le torse.
Ouais, hein? C'est ça. Regardez-nous, là, parce que la nouvelle puissance mondiale économiquement, c'est nous. Puis on est en croissance alors que notre concurrent, les États-Unis, ne l'est pas du tout. Et là, ils ont commencé à inquiéter le monde entier. Jusque-là, c'était une belle histoire, l'histoire de la Chine qui a sorti des centaines de millions de ses citoyens de la pauvreté, qui est devenue une puissance manufacturière incroyable dans des domaines de technologie très avancés. Mais les gens avaient tendance à oublier, à travers ce beau conte de fées, que c'est essentiellement un parti communiste, régime à parti unique, très répressif, qui applique la censure et qui surveille ses citoyens.
Et la peine de mort généreusement, on vient de le voir.
Et la peine de mort très généreusement, et qui espionne ses citoyens, et qui n'y a pas de presse libre là-bas, il n'y a pas de liberté d'expression. Et là, les gens disaient, ben, c'est une bonne idée, Trump est tellement fou, nous on va se tourner vers la Chine. Et là, les services de renseignement du monde occidental, ceux qu'on appelle les Five Eyes, c'est-à-dire que ce sont les services de renseignement des pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, il m'en manque un cinquième. Non? Enfin,
Grande-Bretagne.
Grande-Bretagne, tout à fait. Se sont ligués pour dire à tous les dirigeants du monde entier, réveillez-vous, Huawei n'est pas une entreprise normale. Ce n'est pas une entreprise qui se compare à Siemens ou qui se compare à Apple ou qui se compare à ces géants-là. C'est une entreprise qui a été créée de toutes pièces à la fin des années 2000. Enfin, ils ont commencé avant ça, mais leur expansion a commencé à la fin des années 2000, à la tête de laquelle on retrouve un ancien militaire qui était dans les services de renseignement de l'armée.
Es-tu en train de nous dire, je pense que c'est ça que tu es en train de nous dire, que Huawei, au-delà du fait qu'ils ont une technologie supérieure, est aussi une entreprise qui pourrait éventuellement servir à faire de l'espionnage pour l'État chinois.
C'est exactement cela. Et d'abord, leur technologie n'est pas si supérieure que ça. Moi, j'étais chez Québecor.
Tu regardes le
rythme quand Québecor a obtenu ses licences pour faire de la téléphonie sans fil. Et il fallait donc bâtir un réseau de toutes pièces. Et à mon souvenir, là, moi, je ne pense pas en oublier, il y avait trois compagnies qui se faisaient concurrence pour obtenir le contrat de Québecor. C'était quand même dans les centaines et les centaines de millions. Et c'était Siemens, Ericsson de Suède, Siemens d'Allemagne et Huawei. Et les prix offerts par Huawei, écoute, je ne veux pas avancer de chiffres qui sont faux parce que ça fait plusieurs années, mais c'était renversant.
Tu veux dire, c'était quasiment du dumping, c'est ce que tu veux dire?
Ça ressemblait à du dumping et pas à peu près, et la pression qu'ils mettaient pour qu'on l'achète. Et là, on a commencé à se renseigner, puis on a eu des avis de pas mal de gens, dont certains, je ne peux pas en parler parce que ça vient d'Ottawa. C'est « faites attention à Huawei ». Huawei installe des systèmes. D'abord, ils vendent des appareils portables, puis ils sont même très avancés là-dedans. Mais la base de Huawei, c'est de construire des réseaux de transport de
5G,
données
et
de
5G.
Oui, ben le 5G, mais ils sont aussi au 3G puis au LTE. C'est de construire des réseaux. Et y aurait-il quelque chose? Comment dit-on en français un mouchard à l'intérieur des systèmes qui fait que la Chine est capable d'écouter tout ce qui se passe dans le monde.
Je pose la question, là. Tu mets un point d'interrogation.
Ben, c'est-à-dire que les agences de renseignement sont convaincues que oui. Moi, je mets un point d'interrogation parce que j'ai pas de façon de l'affirmer, mais les services de renseignement sont complètement convaincus que c'est le cas. Et Huawei, donc, était toujours là à offrir ses produits. C'était fantastique. Écoute, c'était tentant, là. C'était tentant.
Tellement le prix est abordable.
Ben, le prix est extraordinairement abordable. Et là, tu te dis, mais pourquoi ils font ça exactement? Et là, tu te rends compte qu'ils sont en train de bâtir probablement le réseau d'espionnage le plus sophistiqué que le monde a jamais vu. Parce qu'au-delà de l'espionnage, c'est aussi un outil de guerre. Dans une période de tension, s'ils décident qu'ils ont les moyens de
ça, c'est comme s'attaquer à un système informatique qui dirige, par exemple, un réseau hydroélectrique, voilà. De décider de le mettre à terre, là.
Oui.
Mais là, si tu fais ça avec les télécommunications, t'es dans le gros trouble.
Oui, il y a ça. Puis en plus, si t'es capable d'écouter n'importe qui transite par les réseaux de Huawei, puis au nombre de réseaux qu'ils ont bâtis, puis ils en ont bâti beaucoup, parce que c'était très attrayant pour les nouveaux venus dans le domaine de la téléphonie mobile.
Mais remarque que tous les réseaux peuvent nous écouter maintenant. Luc, la différence, c'est que quand Google m'écoute ou quand Apple, les appareils de Apple servent à m'écouter, c'est des entreprises commerciales qui en bénéficient, qui vendent après ça l'information à des fins commerciales. Dans le cas de Huawei, c'est une entreprise, ultimement, c'est une entreprise d'État.
Dirigée par un militaire? Et dont le but est essentiellement la sécurité nationale de la Chine, c'est-à-dire que ça fait partie de son arsenal de guerre. Et
mais toi, là, quand tu vois la publicité, parce qu'on la voit, là, l'entreprise Huawei là, ouais, est partout.
Bien sûr,
là,
bien sûr. Hein?
Est-ce que tu es maintenant, quand tu vois ça, ça te met mal à l'aise? Parce que moi, récemment, quand je vois de la pub Huawei, je fais comme, je sais pas.
Moi, ça me mettait mal à l'aise avant parce que je te donnais mon expérience chez Québecor. Comme consultant, par la suite, j'ai fait un autre dossier. Malheureusement, il faut respecter les règles de confidentialité.
Ouais.
Et Huawei était dans ça aussi. Et c'était pire que je pensais. Huawei, là, c'est comme... Attention, là.
OK, donc ça te met davantage mal à l'aise.
Ah, ben je comprends. Les réseaux de téléphonie portable qui sont construits un peu partout en Asie, c'est toujours Huawei qui arrive les premiers.
Donc, tu es en train de dire, toi, là, que...
C'est un outil de la sécurité nationale chinoise.
Donc, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada font bien de se méfier?
Absolument. Et les pays, l'Allemagne, ils ont été exclus de
plusieurs
pays.
Mais là, ils viennent de se faire prendre en Pologne, là, t'as vu?
Oui,
là, ils se sont fait prendre en Pologne pour espionnage.
Deux de leurs employés se sont fait arrêter. Je pense qu'il y a une espèce de concertation mondiale. Je parlais récemment à un homme d'affaires d'ici de Montréal, mais un des grands hommes d'affaires, je ne le nommerai pas, mais qui conduit des affaires en Asie, puis il me dit que là-bas, là, la crainte de la Chine à cause du retrait américain que est en train d'opérer Trump de tous les champs stratégiques de la Terre.
La nature a horreur du vide.
Là-bas, semble-t-il que les pays de toute cette région du monde, évidemment l'Australie, mais aussi l'Indonésie, puis la Malaisie, puis le Vietnam, puis tous ces pays-là, ont une crainte folle parce que non seulement les États-Unis se retirent, il n'y a pas de contrepoids, mais il y a aussi le fait que la Chine, de plus en plus, fait preuve d'agressivité dans son comportement, dans son armement. Ils sont en train de mener une course aux armements. Ils ont lancé un premier
porte-avions. T'as vu avec la Lune, là?
Avec la Lune aussi.
Ben oui, mais ça, on s'entend que c'est pas juste l'exploration lunaire, là.
Ils ont lancé un premier porte-avions. Ils sont sur le point d'en lancer un deuxième. Faut toujours se souvenir qu'en termes militaires, un porte-avions, c'est une arme offensive. C'est jamais une arme défensive. Quand tu te munis de porte-avions, c'est parce que tu veux être capable d'exporter ta capacité militaire. C'est de l'impérialisme.
C'est impérialiste.
Et là, la Chine, ça, c'est le Canada qui le vit. Il va y avoir une délégation canadienne qui va aller en Chine pour leur parler, mais d'après ce qu'on peut voir, ils sont absolument pas parlables. C'est comme ils nous envoient promener, puis ils pensent qu'on est les pantins de Trump dans ça. Ils penseront ce qu'ils veulent. Ce qui s'est passé au Canada, c'est l'exécution d'un mandat de d'extradition venu des États-Unis, puis ça s'est passé dans les règles de l'art, quoi qu'ils en disent.
On va s'arrêter parce qu'au retour, c'est un peu... Il y a un lien quand même entre le sujet qu'on vient d'aborder et celui qu'on va aborder après la pause. Après la pause, tu vas nous parler de Trump.
Et surtout de son nouvel attorney general qui va se présenter devant la commission du Sénat.
Et les révélations sur Trump, là, moi je veux t'entendre là-dessus. Là. Écoute, quand c'est rendu que les services de sécurité américains se demandent ouvertement, est-ce que ce gars-là est à la solde de la Russie? Alors quand tu parles de l'affaiblissement moral des États-Unis un peu partout dans
moral
le monde.
Moral et géopolitique.
Bien sûr, bien sûr. Tout ça est lié après la pause.
Ville PM. La voix est libre.
Ouais. Ah, tu vois, je viens de faire un jeu de mots sans vouloir.
Ouais.
Alors, Trump.
Je commence par te parler de son choix comme remplaçant pour, comment s'appelait-il?
Rosenstein.
Rosenstein.
Comme procureur général adjoint.
Oui. Alors, William Barr, qui est un ancien attorney general sous George H.W. Bush, le père, au début des années 90.
Uh-huh.
Et là, il va comparaître devant le comité approprié du Sénat demain. Et la chose qui m'apparaît, et c'est pourquoi j'en fais une bonne nouvelle, il dit qu'il est vital que le procureur spécial Robert Mueller puisse mener son enquête à terme sans interférence politique d'aucune façon. Il dit qu'il connaît Robert Mueller depuis des années, qu'il le considère un ami et un homme de grande rigueur. Et il va dire, c'est demain qu'il va le dire, là, mais c'est contenu dans son texte qui s'est retrouvé entre les mains des journalistes. Il est très, très clair, cette enquête doit être menée à terme. Alors qu'on croyait que Trump avait peut-être choisi ce gars-là en lui disant, écoute, ça t'intéresse, Attorney General? Mueller, je ne le veux plus dans le décor.
C'est ça.
Alors là, il vient de se faire dire par ce gars-là, puis il ne faut jamais oublier que l'Attorney General des États-Unis, comme chez nous d'ailleurs, est indépendant du pouvoir politique. C'est-à-dire que c'est celui qui
assure l'indépendance judiciaire.
Et ce gars-là, il va être sans doute confirmé par le Sénat.
Il devient très important là maintenant.
Très, très important parce que le problème que j'ai, c'est que je me demande quand est-ce que Mueller va aboutir.
Ben oui, moi aussi.
Parce que comment ça fait longtemps là, qu'il tourne en rond, mais il tourne pas en rond, c'est clair qu'il pas... En fait, on voit qu'il est en train de construire une toile d'araignée où il reste juste Trump comme cible à aller chercher. Il les arrête, il les met en prison.
Il les fait collaborer,
il les transforme en délateur.
Mais son objectif, moi, je pense que Mueller, c'est un gars intègre, donc je pense pas qu'il joue une game politique. Là.
Non.
Je pense qu'il joue un... Tu sais, il y a une enquête, il veut l'amener à terme, et puis il veut aller jusqu'au bout des choses. Et si ça veut dire éventuellement inculper Trump, quoique c'est pas clair
qu'il pourrait l'être.
Tant qu'il est président, c'est pas clair. Mais ça pourrait donner des munitions au Congrès pour amorcer
la destitution. C'est clair qu'il y a ça. Mais il y a aussi le fait que moi, ce qui m'intrigue le plus dans ça, ce qu'on va voir, j'imagine, à un moment donné, c'est la fortune de Trump vient d'où? Tu sais, ce gars-là, il a fait faillite 4 fois, là. Puis il vit comme un milliardaire. D'où est-ce que c'est venu, cet argent-là? Il n'y avait plus une banque qui voulait y en prêter.
Ce qui nous ramène à la Russie, là.
Ce qui nous ramène à la Russie, puis à l'argent qui transite par Chypre. Parce que l'argent russe, l'argent des oligarques russes transite par Chypre. Et paraît-il que le financement de M. Trump viendrait de cette région-là.
Et c'est pour ça que certains ont enquêté Trump.
Le FBI a entrepris une enquête pour savoir s'il était un agent à la solde.
Luc, quand tu as vu ça en fin de semaine, Ah non. T'as dû relire comme moi 2-3 fois le papier pour dire est-ce que je comprends bien là? Est-ce que je comprends bien là? T'as des enquêteurs du FBI, du monde solide qui ont cru et qui croient peut-être encore. C'est pas clair parce qu'on sait pas si l'enquête est encore en cours.
Mais qu'il était à la solde de.
Oui. Donc, un agent russe, un agent secret.
Par ici sur le payroll.
Une taupe.
Une taupe.
Avant, évidemment, de devenir président, on s'entend, le gars aurait été une taupe plusieurs années auparavant, parce qu'il se serait fait financer par les Russes, peut-être une...
Ils l'ont préparé depuis longtemps. Moi, je pense que les Russes n'avaient pas visé à faire de Trump un président des États-Unis. Je pense pas qu'ils croyaient ça faisable. Mais c'était un gars qui jouait dans des milieux de grand intérêt pour les Russes. Fait qu'ils l'ont comme aidé beaucoup. Parce que Trump était en faillite. Quand les gens parlent du grand homme d'affaires, du grand entrepreneur, c'était un gars qui a hérité de 100 millions de dollars de son père puis qui a trouvé moyen de le dilapider. Puis là, il vivait, puis il continue de vivre comme un milliardaire avec tout ce qui... Et l'ostentation qu'il adore tant. D'où ça vient, cet argent-là? Moi, je pense que c'est ça qu'on va découvrir en bout de ligne dans l'enquête de Mueller.
Est-ce que c'est criminel?
Ben clair, c'est clair que c'est criminel. D'abord, blanchiment d'argent, d'abord de l'argent illégal, c'est tout ça là, qui est sur la ligne. Hein. Et de voir s'il y a eu collusion, on voit déjà que Manafort, son ancien gérant de campagne ou directeur général de sa campagne électorale, était totalement vendu aux Russes. Il travaillait pour eux, même pendant qu'il travaillait sur la campagne de Trump. Alors, où est-ce qu'il va nous amener, Mueller? J'ai hâte de le voir, parce que il a déployé, mais il a fait une chose que je trouve assez brillante. Tu sais, on peut dire que ça coûte cher, cette enquête-là. Au dernier chiffre, l'enquête Mueller avait coûté 28 millions de dollars. Sauf qu'il récupère tellement d'argent de ceux qui l'arrêtent qu'il a presque couvert ses propres coûts.
Ah oui, hein, j'ai pas vu ça.
Mais oui, parce que il est pas dans la position... Excuse-moi pour mon rhume que tout le monde
grippe. Ben oui.
Il n'est pas dans la même position que le procureur spécial Kenneth Starr sous Bill Clinton. Il n'a pas été nommé selon cette même loi-là. Tu sais, Kenneth Starr, il ne pouvait pas lancer des mandats d'arrestation. Lui, il fait son enquête à partir du FBI. Donc, il y a les grand juries là, où on porte les accusations qui sont là. C'est lui qui les demande. C'est lui qui porte les accusations. Puis en portant les accusations, il s'assoit avec les prévenus puis il leur dit « Bon, nous autres, on est prêts à aller plaider pour toi pour que tu aies une sentence réduite. » Mais il va falloir que tu nous parles, puis compte-nous pas de menterie, parce que tout ce que tu vas nous dire, on va le vérifier. Et à l'heure actuelle, il y en a pas mal dans son panier, à commencer par Michael Flynn, le général qui a été congédié de la Maison-Blanche un mois après avoir été assermenté comme National Security Advisor.
D'ailleurs, le juge a pris en délibéré sa sentence à celui-là. Tu te rappelles, hein? Ils ont arrêté ça avant Noël parce qu'il a dit, écoutez, là, moi, vous avez trompé votre pays.
Vous avez trahi
votre pays. Alors, il va revenir éventuellement, Flynn, là. Alors, Luc, ça va?
Eh bien, ça va. J'ai un peu de difficulté avec mon rhume. Puis en plus, ce que tu m'as donné comme sirop pour le soigner, ben non, c'est du vin rouge. Et moi, je soupçonne qu'il y a un certain pourcentage d'alcool dans ça. J'en ai pris qu'une gorgée pour arrêter ma toux. Mais là, je suis en train de devenir galou.
Garde, je vais te donner un petit break.
Ah ben là, ça va me faire du bien.
Hein, ça va-tu te faire du bien? Tu peux pas dire que je suis pas un bon gars avec toi.
Parce que je m'en vais me coucher pour faire un beau dodo.
Hein, tu peux pas dire que je suis pas un bon gars avec toi.
Écoute,
je prends soin de toi.
Bernard, je t'aime. Tu le sais, je l'ai dit tellement de fois.
On va s'arrêter, OK? Puis ça va nous faire plus de temps.
C'est le seul séparatiste que j'aime. Non, je pas vraiment une coupe d'eau.
Ben oui, quand même. On s'arrête parce qu'au retour, on va avoir Martin McGuire. Puis comme la vie est bien faite, on va avoir un petit peu plus de temps avec Martin pour parler pas juste du match de ce soir, mais celui de samedi. Oh, hein, Luc? T'as-tu encore 30 secondes d'énergie pour dire...
Écoute, la troisième période du match contre le Colorado, c'était du très, très grand hockey.
Oh, bye-bye.
Et là, on a vu se déployer les talents, Jonathan Drouin, entre autres, Kotkaniemi, entre autres.
Hein?
Et ils ont été... là. Mais
écoute...
Puis la vitesse d'exécution de l'équipe des Canadiens de cette année, c'est ça qui les rend si incroyables.
Moi, j'étais dans mon salon, j'ai fait... Sur le but. Après ça, ça a repris. Yes! Puis après ça, sur l'autre repris.
Le but.
C'était incroyable.
Le but de Kotkaniemi, le jeu de Drouin qui a fait le tour.
Ah oui, la pirouette deux fois. C'était
extraordinaire.
Tu vois le petit vin rouge finalement? Il me soigne.
Il
te redonnait un petit peu de force là, pour revenir. OK, va te coucher.
Salut.